Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
C'en est fini avec l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. C'est un communiqué de l'OMS rendu public par les autorités sanitaires du pays qui l'annonce. C'est au terme d'un compte à rebours de 42 jours après le dernier cas confirmé, soit sorti guéri de l'hôpital. Le président national du RCD-KML soutient l'appui de l'armée ougandaise pour la pacification de l'Est, mais insiste sur la nécessité de voir l'État congolais trouver lui-même des solutions aux problèmes qui touchent à son intégrité. Mboussa Nyamwisi l'a dit à la clôture du deuxième congrès de son parti, hier jeudi à Kinshasa. Notre invité ce matin, c'est Théovel Lotika, député provincial de la Tchopo. Il est l'initiateur d'un édit portant lutte contre l'exploitation des enfants qui a été adopté par l'Assemblée provinciale. Dans ce journal, il nous expliquera la motivation, les objectifs poursuivis ainsi que la spécificité de son édit. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Cette annonce, qui est contenue dans un communiqué publié par l'OMS hier jeudi, a été faite par les autorités sanitaires de la RDC. Selon ce communiqué, l'épidémie d'Ebola qui a été confirmée dans la province du Nord Kivu en octobre dernier, la seconde en 2021, a été déclarée terminée après qu'aucun cas n'a été signalé au terme d'un compte à rebours de 42 jours, soit deux fois la période d'incubation après le dernier cas confirmé soit sorti guéri de l'hôpital. Au total, 11 cas, dont 6 décès, ont été enregistrés lors de l'épidémie qui a été déclarée le 8 octobre dernier après la confirmation d'un cas dans la zone de santé de Beni dans la province du Nord Kivu. Cette épidémie était la 13e dans le pays et elle a eu lieu à Lairung, dans la même zone que celle de 2018 qui avait duré 2 ans.
Selon ce communiqué de l'OMS, plus de 1800 personnes ont été vaccinées dans le cadre d'une campagne qui a été lancée tout juste 5 jours après la détection du premier cas. L'épidémie a été l'occasion pour la première fois d'utiliser dans le pays le vaccin Hervébo contre Ebola récemment approuvé. Hervébo est le même que le vaccin à usage compassionnel, mais son déploiement est moins lourd en tant que vaccin homologué. Une plus forte surveillance de la maladie, l'implication de la communauté, une vaccination ciblée et une riposte rapide rendent le contrôle d'Ebola plus efficace dans la région, a déclaré Dr Machidiso Mweti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Lors de cette épidémie, la République démocratique du Congo a été capable de limiter la propagation de la maladie et de sauver des vies. Des leçons essentielles sont apprises et mises en pratique avec l'expérience acquise à chaque épidémie. Une riposte rapide comprenant des mesures clés de contrôle de l'épidémie, telles que le suivi des contacts, le dépistage, la surveillance de la maladie, ainsi que les efforts de collaboration avec la communauté, a aidé à contenir la flambée dans Beni, la ville où le premier cas a été détecté. En soutien au pays, l'OMS a déployé des experts et du matériel et a contribué au financement pour aider à endiguer l'épidémie, indique le communiqué.
Néanmoins, la situation sécuritaire imprévisible et parfois instable dans certaines parties de Beni a entravé la riposte dans certaines localités. Le personnel de santé et les autres intervenants de première ligne n'ont pas pu accéder aux zones non sécurisées pour contrôler les cas contact à haut risque et administrer le vaccin, précise le communiqué de l'OMS. Nous l'avons dit au sommaire, Mboussa Nyamwisi apporte main forte aux initiatives du pouvoir en place concernant la sécurisation et la pacification de la partie est de la RDC. Le président national du RCD-KML, tout en soutenant l'initiative de l'appui de l'armée ougandaise dans la traque des ADF, insiste sur la nécessité de voir l'État congolais trouver lui-même des solutions aux problèmes qui touchent à son intégrité. Déclaration faite à marge de la clôture, ce jeudi ici à Kinshasa, de 3 jours de travaux du deuxième congrès du RCD-KML. À l'issue de ce congrès, Mboussa Nyamwisi a été reconduit au poste du président national du parti pour un nouveau mandat de 7 ans. On écoute Mboussa Nyamwisi dans cet extrait que nous propose Billy Yvan Lutumba.
Nous allons continuer notre action politique dans le sens de soutenir ce qui est bon, de dénoncer ce qui ne va pas aussi. J'ai bien dit que je soutenais les efforts qu'il fait pour remettre l'ordre à l'Est. Vous savez qu'il y a eu des massacres innommables, qu'il continue d'ailleurs, mais il a pris de grandes mesures. Nous dénoncions, je crois, dans un de nos communiqués, il y a quelques temps, qu'il y avait en Omerta une loi du silence sur les massacres graves qui s'est passé dans cette région du pays. Il a pris des mesures, nous le soutenons, c'était d'abord l'état de siège. On a estimé que ça ne fonctionnait pas totalement à la satisfaction des populations du coin. Et il a estimé qu'il fallait renforcer ça par l'arrivée des troupes d'un pays voisin, en l'occurrence l'Ouganda. Nous soutenons tout cela parce que ça va dans le sens de rompre l'omerta, le silence sur des actions graves qui se commettaient sur nos populations. On espère que tout cela va bien aller. Encore une fois, ce ne sont jamais les étrangers qui résoudront nos problèmes, c'est nous-mêmes. Nous devons nous préparer à assumer nos responsabilités.
Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté hier jeudi, sans débat, la 14e prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota, a motivé cette énième prorogation par la persistance de la situation d'insécurité aux fins de permettre aux forces armées de poursuivre les opérations de restauration de la paix dans ces provinces. Au Nord Kivu, le projet de police rwandaise et congolaise visant à établir une unité opérationnelle conjointe à Goma avec d'autres institutions policières régionales continue à susciter des réactions. La dernière date est celle du député national Moïndo Kasekwa. Le lieu de Goma dit avoir adressé une lettre au ministre congolais de l'Intérieur hier mercredi, Bernardin Nyangi, pour expliciter la question.
Un article que nous avons lu ce jeudi sur le site officiel de la police nationale du Rwanda indique que cette disposition est incluse dans un protocole d'accord signé lundi 13 décembre à Kigali, au Rwanda, entre l'inspecteur général de la police rwandaise, Dan Munyuza, et son homologue congolais, le général Dieudonné Amulibaye. Ce protocole est mis en exergue par cet article, officialise la décision prise lors d'une récente assemblée générale des institutions policières de la région des Grands Lacs à Kinshasa. Le député Moïndo Kasekwa estime que ce projet nécessite plus d'éclaircissement.
Ma question au ministre de l'Intérieur consiste à savoir qu'est-ce qui explique la coïncidence de cet accord de déploiement de la police rwandaise à Goma au même moment où l'armée ougandaise a commencé la traque contre les ADF à Beni conjointement avec les FARDC. Deuxièmement, en quoi la présence d'une police étrangère est préférable à la dotation de notre propre police?
Pour le moment, nous n'avons pas réussi, malgré nos efforts, à obtenir la réaction du porte-parole de l'inspection générale de la PNC. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu se garde, lui, de tout commentaire sur la question. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Pendant 7 ans en visite de travail à Beni, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a rencontré hier jeudi le commandant du secteur opérationnel Soukola 1. Les échanges ont tourné autour de la conduite des opérations conjointes entre les FARDC et la force de la MONUSCO dans la région de Beni. Pour la chef de la MONUSCO, la coopération entre les FARDC et la force de la MONUSCO va continuer dans un esprit de camaraderie. Bintou Keïta l'a dit au micro d'André Kitenge.
Il a été question de s'assurer que nous sommes bien en phase en ce qui concerne la conduite des opérations conjointes entre la FARDC et la force onusienne. Et nous sommes entrés dans plusieurs niveaux de détails, mais ce qui est important, c'est que cette coopération entre la FARDC et la force onusienne, la MONUSCO, va continuer et dans un esprit de camaraderie, parce que c'est ce qui, pour moi, caractérise ces rencontres que nous avons ici avec le général et ses collaborateurs, puisque nous parlons sérieusement, mais nous avons aussi des rires dans les discussions et les échanges que nous avons, puisque c'est un partenariat de soutien. Et nous pensons que dans cette mutualisation des efforts, nous allons continuer d'aller de l'avant.
Autre nouvelle, dans la province du Bazouélé, la société civile Force Vive exige la libération de 3 de ses membres détenus à la prison de Bouta depuis 6 mois maintenant. Ils avaient été arrêtés après des accrochages avec la police. Selon Jean-Marie Epekana, président de cette structure citoyenne, c'est au moment où ils sont venus intervenir en faveur de quelques personnes que les services de sécurité civile étaient en train de tracasser. Non seulement il exige la libération de ses camarades, mais il plaide aussi pour le renforcement des conseillers à la cour d'appel de Bouta. Il a été joint au téléphone par Jacques Moukonkoli.
Après arrestation, ils ont été déférés au niveau de la prison. Le parquet a réglé leur détention. C'est juste après le premier degré qu'on leur a condamné à 6 mois. On a fait appel. Maintenant, au niveau de la chambre, il y a eu un membre du conseil qui est malade, qui est parti à chef. C'est ainsi que nous sommes allés déplorer ces cas. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas assistés et les revêtis ne sont pas sortis au niveau de la peine parce qu'ils devaient être acquittés. Ils sont des innocents, ils n'ont rien fait, ils ont été arrêtés arbitrairement.
Un conseiller de la cour qui est malade à Kinshasa sait que la cour n'est pas au complet pour siéger. Quoi vous réclamez leur libération?
Nous réclamons leur libération parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement. hiérarchie pour qu'on puisse nous envoyer des conseils tant que nous avons qu'une seule chambre. Lorsqu'un conseiller est malade, la cour est devenue incompétente pour siéger.
Procès sur le meurtre des deux experts de l'ONU tués au Kasaï, débuté à l'audience passée. Les plaidoiries des avocats de la défense se sont poursuivies hier jeudi. Devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, le conseil du colonel Jean-Dédier Mambweni, qui clame l'innocence de son client, a cité un magistrat du parquet militaire d'avoir instrumentalisé les prévenus Vincent Manga, lui demandant de citer François Kadima, cet officier militaire, dans cette affaire.
Plaidant en faveur de son client, Maître Makolo cite le colonel Maurice Lianza, magistrat militaire. Lors de l'instruction préjuridictionnelle de cette affaire de meurtre de deux experts de l'ONU, il avait demandé au prévenu Manga de citer le colonel Jean-Dédieu Mambweni, a-t-il expliqué. Revenant sur différentes infractions retenues contre Mambweni, fait pour lesquelles le ministère public a requis la peine capitale comme la plus forte contre lui, ses avocats ont, après avoir présenté leurs moyens de défense, soutenu que toutes ces préventions sont non établies. De ces faits, ils ont demandé à la cour militaire de simplement acquitter Mambweni et invité à compléter son conseil. Le colonel Mambweni a, dans sa mise au point, clamé son innocence, accusant également le magistrat militaire Maurice Lianza de lui avoir demandé $1,000 américains pour ne pas le laisser aller devant la justice. Alors qu'une partie d'argent lui a été versée, il n'était pas satisfait et nous avons eu et mal entendu jusqu'à mon arrestation avec humiliation dans cette affaire, a indiqué Jean-Dédieu Mambweni. Signalons que le collectif des avocats d'autres prévenus ont continué à défiler devant la cour militaire pour défendre leurs clients. De Kalanga, François Kadima, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit direction Kwilu. Au moins 5 morts, 8 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Bilan provisoire d'un accident de circulation routière survenu hier jeudi sur la route nationale numéro 1 dans les territoires de Massimanimba. L'administrateur de ces territoires, Jean Bosco Mukubidi, parle d'une remorque roulant la nuit en provenance de Kikwit pour Kinshasa qui s'est renversée à quelques kilomètres de la commune rurale de Massamouna. L'excès de vitesse, la surcharge et le mauvais état des routes en seraient la cause. Il appelle le service de PCR à veiller sur les remorques qui transportent les personnes. Irène Mboma, quand est-ce que cet accident a eu lieu?
L'accident s'est produit vers 1h du matin de jeudi au niveau d'un virage situé à 4 kilomètres de la commune rurale de Massamouna, sur la route nationale numéro 1 dans son axe allant de Kinshasa vers Kikwit en passant par Kenge au Kwango. Selon l'administrateur du territoire de Massimanimba qui livre l'information à Radio Okapi, il s'agit d'une remorque en partance de Kikwit pour Kinshasa, transportant des personnes et des marchandises qui s'est renversée. L'excès de vitesse, la surcharge et le mauvais état de la route seraient à la base de cet accident, a déclaré Jean Bosco Mukubidi, qui indique que le bilan provisoire est de 5 morts et 8 blessés. C'est grave.
Comme le véhicule venait en vitesse et puis vers 1h du matin, et surtout à cet endroit-là, la route n'est pas tellement bonne, et les surcharges, alors le canot s'est renversé. Là, on continue toujours à fouiller sous les sacs de braise. Peut-être on va trouver d'autres corps. Comme c'était un camion remorque, il n'y a pas de manifeste.
Cette autorité territoriale s'est dit très préoccupée par la récurrence des accidents mortels à cet endroit. Il appelle la police de circulation routière, notamment à ne pas permettre le transport des personnes par des véhicules remorques. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, il s'observe une baisse du prix de produits vivriers ce jour dans la région de Kamandi, sur la côte ouest du lac Édouard, en territoire de Lubero. D'après la société civile locale, cette baisse est consécutive au compromis trouvé entre l'ICCN et l'autorité territoriale, autorisant les agriculteurs d'accéder à leurs champs dans la région de Ndouali pour la récolte. Considérant cette zone comme étant une partie du parc national de Virunga, les éco-gardes y avaient chassé les agriculteurs, rapporte la même source. Sami Sakoumi, président de la société civile de Kamandi, s'est dit satisfait. Il a été joint au téléphone par Grace Hamzati.
Actuellement, les produits vivriers comme le maïs qui s'achetait auparavant, un sac de 5-10 kilos à $35, aujourd'hui ça s'achète à $25. Un sac de haricots marque Pigeot Vert qui s'achetait à $80, un sac de ça est 5 kg, ça s'achète à $45. Autre haricot, et ça qui s'achetait à $60, actuellement ça s'achète à $40. Et ça du riz de 5-10 kg, les riz non moulis qui s'achetait à $45, aujourd'hui ça s'achète à $38. Et ça fait joie à la population, malgré que les éco-gardes ne veulent pas que les gens puissent encore cultiver, mais ça nous aide à l'économie du millier parce que cette nourriture ici, comme les haricots, vendons les pigeons verts là, nous partons les vendre d'autres à Kisangani. Cette nourriture ici aide toute la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous appelons notre gouvernement de continuer toujours à voir comment ils vont faire. Parce que si on n'autorise pas la population encore de travailler là-bas, ça sera une catastrophe.
Actualité internationale.
À Istanbul, débute ce vendredi 17 décembre le troisième sommet du partenariat Afrique-Turquie. Des leaders et ministres de 39 pays, dont 13 présidents, sont attendus. La cérémonie d'ouverture de ce sommet, repoussée deux fois à cause de la pandémie, doit débuter dans la matinée, moins de deux mois après le sommet de partenariat économique.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les députés provinciaux ont adopté mercredi un édit portant lutte contre l'exploitation des enfants. Initié par les députés provinciaux Théovel Lotika, ces derniers en expliquent la motivation, les objectifs poursuivis ainsi que sa spécificité par rapport à la loi portant protection de l'enfant. Le député provincial Théovel Lotika s'entraîne ici avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Théovel Lotika, bonjour.
Bonjour, monsieur le juge.
Votre proposition d'édit portant sur la lutte contre l'exploitation des enfants vient d'être adoptée. Qu'est-ce qui justifie votre initiative?
Merci. Tout d'abord, comme vous savez déjà, il y a une loi qui existe qui protège les enfants. Nous voulions ici l'adapter au contexte de la Tchopo et de la ville de Kisangani.
Quel est l'objectif visé par votre proposition d'édit?
Bon, nous devons adopter un plan d'action en vue d'éliminer l'exploitation et la maltraitance dont les enfants sont victimes dans la province de la Tchopo, mais aussi promouvoir les mécanismes appropriés pour soustraire ces enfants de milliers qui ne favorisent pas son développement.
Tout cela n'est pas nouveau. Vous l'avez dit, il y a une loi qui existe déjà. Avez-vous l'impression que cette loi n'est pas bien appliquée dans notre province?
Non, justement, comme vous le savez, chaque province a ses spécificités. Chaque province a ses réalités qu'on ne peut trouver partout dans la République démocratique du Congo. La Tchopo a, comme vous savez, a traversé des moments troubles. Nous avons traversé différentes guerres ici, la guerre des six jours, tout ça. Nous avons à la Tchopo des carrières des diamants, des carrières de sable. À la Tchopo, nous avons les toleka. Toleka, peut-être qu'on ne trouve pas ailleurs, alors que la loi nationale n'a pas prévu tout cela. Donc, il était important pour que ici, au niveau de la province, nous puissions trouver une loi qui est adaptée à nos cultures, qui est adaptée à nos réalités.
Donc il y a des spécificités qui concernent la province de la Tchopo que vous avez voulu mettre en exergue.
Justement.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette loi peut apporter comme changement dans la vie de tous les jours?
Le changement, c'est dans beaucoup de choses. Vous avez ici, dans la province de la Tchopo, c'est tout particulièrement dans la ville de Kisangani, les enfants qui conduisent les aveugles, les vieillards pour les Saïdia, par exemple. L'État congolais, la province a droit à protéger ces genres d'enfants et d'abord de décourager ces comportements. Nous avons les enfants qui font les transports des toleka, par exemple. Très souvent, si vous regardez bien, ce sont des enfants, des personnes qui ont moins de 18 ans. Donc, alors, ce sont deux enfants. Ce phénomène doit être pris en compte, c'est-à-dire que nous, comme Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux, nous devrons bien être regardants, c'est-à-dire d'interdire ce genre de pratiques parce que ça ne favorise pas l'épanouissement de l'enfant. Mais bien que cela, nous avons plusieurs autres exemples. Les enfants qui sont dans le milieu dangereux, qui évoluent dans les carrières des diamants, les carrières d'or, tout ça, je pense que il est temps pour l'instant pour la province de bannir ce genre de pratiques. Donc, cette proposition de dit, si elle est appliquée, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes.
Ces enfants-là qui accompagnent les vieillards, les aveugles dans la ville, ces enfants qui se trouvent dans les carrières, maintenant il faudra les encadrer. Avez-vous pensé à cela?
Justement, raison pour laquelle dans l'un des articles, nous avons parlé de l'encadrement de ces jeunes. D'abord, comment il faut les récupérer, les faire sortir plutôt de ces environnements. Mais aussi l'État doit les encadrer. L'État doit prévoir déjà, je pense, prévoir leur formation, leur donner un cadre qui doit favoriser leur éducation et leur épanouissement. Voilà pourquoi nous avons pensé à certains centres de formation professionnelle que l'État doit prendre en charge, mais aussi nous avons incité l'État d'aller plus loin, d'inciter les partenaires, les organismes qui s'occupent des enfants à venir à la province pour l'encadrement de ces enfants qui ont souffert de toutes ces atrocités.
Nouvelle Lotika, il faudra maintenant vulgariser, c'était dit.
Donc, moi je pense que, parce que nous avons compris que cette proposition de dit c'est un texte qui est très important, qui est vraiment utile pour la société. Je pense que ça doit être le travail de tout le monde. Donc, commençant par nous comme députés, je pense que nous sommes aussi en train de vulgariser des gens, les gens savoir qu'il y a déjà un texte qui cadre avec ce que nous venons de dire, mais aussi le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, je pense que a le devoir, a l'obligation de vulgariser ces textes, même peut-être avant de les appliquer, mais vous aussi les journalistes. Donc nous appelons tous ces gens, tous les partenaires, de venir en aide en vulgarisant cette proposition de Dieu qui est très utile pour la population.
Merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.